L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Nous sommes évidemment le mercredi 19 et vous le savez, c'était attendu. Ça y est, les terrasses sont réouvertes. C'est aussi le cas des musées, des théâtres, des cinémas, des salles de sport aussi pour les enfants. On va vous, justement vous détailler tout ça dans cette émission en compagnie de Claire. Salut Claire.
Et oui, salut Marie, salut tout le monde. Et c'était moi la technique, donc désolée pour le petit décalage.
Pas de souci, de toute façon, évidemment. C'est aussi la nouveauté, voilà, on c'est ouvre ça. Étape 2 du déconfinement. On continue comme ça, on va justement en parler avec le Carré qui propose, ça y est, sa réouverture, pas propose, propose une nouvelle programmation pour sa réouverture. Évidemment, le Carré à Château-Gontier, la scène nationale. On va parler aussi de la réouverture des musées et avec deux exemples, le Manas ici à Laval et aussi le Zoom, le musée des sciences. On continuera avec la chronique de Soisic, un autre écho de l'écho, Soisic qui a profité de ce couvre-feu et ce confinement pour réviser un peu ses classiques, vous allez l'entendre. Et puis en fin d'émission, on poursuit évidemment avec l'association Place au Vélo et on parle aujourd'hui aménagement pour les cyclistes de la ville de Laval.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, profitez des terrasses, cinéma et théâtre.
Et oui, ça y est, c'est possible à partir d'aujourd'hui, deuxième phase de ce déconfinement. Vous pouvez boire un café ou déjeuner en terrasse dès aujourd'hui, avec une table de 6 personnes maximum et une jauge limitée à 50%. Les commerces dits non essentiels peuvent eux aussi réouvrir, tout comme les lieux culturels avec des jauges réduites à 35%. Les salles de sport et piscines sont accessibles pour les publics prioritaires comme les mineurs. Et à noter aussi que le couvre-feu est repoussé, lui, à 21h.
Et à la Laval, le théâtre occupé le restera malgré sa réouverture.
Les occupants du théâtre se verront remettre symboliquement les clés du lieu ce soir, ce mercredi à 17h30, pour leur permettre de continuer l'occupation justement des lieux, en accord avec les élus de la ville de Laval et la direction du théâtre. Ils restent mobilisés, notamment contre la réforme de l'assurance chômage qui devrait rentrer en vigueur début juillet.
Pendant ce temps, l'épidémie continue sa décrue dans la région.
Depuis quelques jours, les indicateurs de la Covid-19 diminuent fortement, avec 122,8 cas pour 100 000 habitants en Mayenne. Les taux de positivité sont aussi en baisse, respectivement à 4%, 4,5% pour être précis. L'impact se ressent aussi à l'hôpital. 609 personnes sont prises en charge dans la région. C'est bien moins que les chiffres au plus fort de la crise.
En Mayenne, le poste d'infirmière scolaire sera bien supprimé.
La décision a été actée en comité technique spécial départemental le 19 avril dernier, donc entérinée hier. Le poste est supprimé au lycée Réaumur à Laval pour être transféré en Loire-Atlantique. Une décision inacceptable pour les syndicats qui estiment que les élèves seront lésés alors que le département manque déjà de médecins scolaires.
Lactalis prévoit de mieux rémunérer les éleveurs laitiers.
Nous sommes assez confiants sur une hausse du prix du lait en 2021. Ce sont les mots du patron du géant laitier Emmanuel Beignet. Une revalorisation réclamée par les éleveurs qui sera possible grâce à la revalorisation des beurres et poudres de lait revenus à des niveaux d'avant la crise sanitaire de la Covid. Si le groupe alimentaire a payé le lait 369 euros la tonne en 2020, il ne donne pas d'estimation pour cette année. Pour sa part, la Fédération nationale des producteurs laitiers estime que les industriels et la grande distribution publient de très bons résultats. Ce n'est pas notre cas, nous sommes les sacrifiés de la pandémie. Fin de citation. Et puis, on le disait en tout début de cette émission, c'est le jour J. Aujourd'hui, réouvrent les terrasses des bars, les musées, les cinémas, mais aussi les théâtres, Claire.
La scène nationale et le centre d'art contemporain Le Carré, à Château-Gontier, a sorti sa programmation. L'occasion d'en parler dans la grande salle du Carré, avec son directeur Maël Grenier et sa responsable de communication Christine Houdard. Ils nous présentent leur coup de cœur et on commence avec Happy Manif le 29 et 30 mai.
Happy Manif, qui est la proposition participative chorégraphique en plein air de David Roland. Déjà parce que c'est un spectacle qui faisait partie de la programmation 2021. Et puis évidemment, comme c'est une proposition de plein air, dans un site exceptionnel, un château privé sur une des communes du pays de Château-Gontier, on pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour retrouver le plaisir de se retrouver ensemble et de retrouver les artistes.
C'est le moment ou jamais d'être heureux de se retrouver pour partager un moment artistique. Et puis sinon, on a aussi Lady Sings the Blues, qu'on a décalé au 17 juin pour pouvoir accueillir déjà l'ensemble des spectateurs qui avaient réservé dès la rentrée de septembre. et on espère pouvoir aussi accueillir quelques spectateurs supplémentaires. Et là, c'est aussi un moment hyper festif, puisqu'on a déjà beaucoup de monde sur le plateau, puisqu'ils sont presque une quinzaine. Ça associe la musique classique et le jazz, le blues. C'est un hyper péchu, et donc je pense que ça va faire énormément de bien aux spectateurs et aux artistes de partager ce moment-là.
C'est vrai que dans les propositions qu'on remet sur celle lors de cette ouverture, ce sont des propositions qui sont vivantes, qui sont plutôt joyeuses, qui sont enjouées, qui sont dynamiques, quoi. On a effectivement privilégié ces propositions-là, puisqu'on pense que les gens les attendent, aussi parce qu'il y avait pas mal de réservations dessus depuis le début de la saison, et parce que aussi les plateaux artistiques étaient disponibles, enfin les équipes étaient disponibles à ces nouvelles dates. Donc on pense que l'ensemble du bouquet là qui est proposé aura son public, on espère en tout cas.
Et puis voilà, on est très content de réaccueillir le public. Je pense que ça va être vraiment un effet de retrouvailles qui va être important. Enfin, même à titre professionnel, on a pu continuer à aller voir certaines propositions, voilà, sur des rendez-vous limités aux professionnels. Et rien que ces moments-là, il y avait une émotion assez forte à certains moments sur des équipes, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette occasion-là. Donc je pense que le public va être pareil. Il est tellement en demande, tellement en attente, que je pense qu'on va partager pas mal d'émotions. À partir du 19, vous pouvez revenir à la billetterie. On peut vous renseigner, acheter des billets, se faire rembourser malheureusement des spectacles annulés. Voilà, on est à votre disposition et on vous accueille, on vous donne tous les renseignements. C'est aussi possible par téléphone. Sur le site internet, vous avez tous les renseignements.
Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'a priori, il reste des places un peu partout, même s'il y a déjà des réservations. Les places sont disponibles sur un certain nombre de spectacles et probablement, il reste encore quelques places sur les têtes d'affiches qui seront encore proposées. Mais n'hésitez pas à appeler, quoi, surtout.
Vous pouvez retrouver tout le programme sur leur site le-carré.org et n'hésitez pas à les appeler au 02 43 09 21 52.
Donc, vous l'avez compris, le carré réouvre ses portes. Ce sera aussi le cas des musées dès aujourd'hui, et notamment à Laval avec le Manas, le musée d'art naïf et d'art singulier, mais aussi le musée des sciences, le Zoom. Dès cet après-midi, ils ouvrent leurs portes. On va entendre justement comment ils se sont organisés et à quel point ça leur fait du bien, justement, dans 3 minutes, juste après Caléo, avec Way Down We Go.
Oh, Father, tell me. Do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. And we're down. Oh, down we go.
Way Down We Go de Kaléo sur l'autre radio dans la JT du local. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de tous ces changements qui s'opèrent ce mercredi 19 mai. Et eux aussi sont impatients de rouvrir aujourd'hui. Les musées de la Mayenne se préparent depuis plusieurs jours à accueillir à nouveau du public, y compris les trois sites du conseil départemental, le musée archéologique de Jublain, le château de Sainte-Suzanne et le musée Robert Tatin. Avec des jauges réduites, 60 personnes autorisées dans les espaces clos et en visite guidée, 10 personnes en intérieur et 30 personnes à l'extérieur. Des chiffres qui seront doublés à partir du 9 juin. Le Manas, le musée d'art naïf et d'art singulier, est lui aussi ouvert depuis ce matin à Laval, avec un programme bien chargé pour aujourd'hui, comme le précise Cyrielle Langlais, la directrice adjointe des musées de Laval.
On retrouve notre public avec beaucoup de joie. On a attendu ce moment avec impatience, donc on a préparé beaucoup de choses pour célébrer cette réouverture et puis cette rencontre renouvelée avec notre public. On propose en fait un après-midi jeu en famille qui peut démarrer en fait assez jeune puisqu'on commence ces activités avec des jeux de mémoire qui sont en accès libre tout l'après-midi. C'est gratuit, sans réservation, de 13h30 à 18h. Donc un mémoire, c'est voilà, un grand classique du jeu de société qu'on a adapté à la collection Naïve et Singulière. Et puis on propose également un jeu de loi, là aussi détourné et qui fait écho à la collection et qui s'appelle le Tourbillonnard. Et pour cet après-midi jeu, des médiateurs se trouvent dans les salles, vont accompagner notre public et bien sûr faire en sorte de respecter le protocole sanitaire.
Justement, le protocole sanitaire, est-ce que pour cette réouverture, vous avez quelque chose d'assez strict ou finalement ça ne va pas forcément trop déranger par rapport au fonctionnement classique du musée ?
Alors la particularité, c'est qu'on fonctionne, on va fonctionner en jauge réduite et puis on va contrôler également le nombre de visiteurs dans chacune des salles et veiller à ce que la distanciation soit bien respectée. Et puis surtout, ça c'est le cas depuis un bon moment maintenant, à l'occasion de notre réouverture l'été dernier, c'était déjà le cas, on a revu la circulation au sein du bâtiment. Donc voilà, ce protocole qui était déjà établi pour l'été dernier est toujours en vigueur pour notre réouverture à partir de demain.
Et alors, très concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est mieux de réserver à l'avance ou est-ce qu'on peut venir comme ça, mais il y a peut-être un risque d'attendre un peu ? Qu'est-ce que vous conseillez ?
Alors, il n'est pas utile de réserver au préalable. Vous serez de toute façon reçu et accompagné par l'équipe qui saura vous orienter dans les salles qui sont accessibles et dans lesquelles il y a moins de public. Donc, il n'y aura pas de difficulté. Simplement, il faut bien avoir en tête que cet après-midi complet est à disposition des visiteurs. Donc, entre 13h30 et 18h, il ne faut pas forcément venir dès l'ouverture 13h30. Vous pouvez venir pour jouer à partir de 16h, à partir de 17h, c'est vraiment en accès libre, donc à n'importe quel moment de l'après-midi.
Évidemment, là c'est le premier jour de réouverture, il n'y a pas que ça. Et est-ce qu'il y a déjà des expositions que vous aviez commencé peut-être à proposer cet automne par exemple, et qui n'ont pas eu la vie qu'elles auraient dû avoir et que vous reproposez là, ou tout est nouveau dans ce qu'on pourra voir ? Comment est-ce que ça a été organisé ?
Alors c'est vrai que notre programme d'exposition temporaire a été quelque peu bousculé par la pandémie. On a notamment à l'automne monté une exposition qui célébrait Stéphanie Berthier, une artiste qui est lauréate de l'aide à la création. Et cette exposition a été démontée sans être vue malheureusement par le public. Donc on a essayé au maximum de valoriser le travail de cette plasticienne en produisant des supports vidéo notamment qui sont accessibles aujourd'hui sur notre site internet. Et l'exposition Ogre et Croque-Mitaine, qui était, elle, ouverte à partir du 19 septembre 2020, a depuis été démontée. Donc là, ce sera que de la nouveauté. On vous propose une exposition qui se consacre au travail d'Antoine Nègre, qui est un artiste qui travaille à partir de toutes sortes de matériaux. C'est un travail très poétique, qui est donc accessible de notre ouverture jusqu'aux journées du patrimoine, donc au 19 septembre 2021. Et puis on proposera à partir du tout début du mois de juillet, du 3 juillet 2021, une exposition consacrée à Ise. Ise, c'est une artiste textile qui a été notamment exposée à la piscine à Roubaix, qui propose un travail contemporain qui nous invite dans un imaginaire et un monde vraiment qu'elle a créé de toutes pièces. Et pour cette exposition, elle a conçu des œuvres spécifiquement. Donc il y a vraiment un travail qui a été conçu en tout particulier pour les musées de Laval.
En complément justement de ces deux expositions, j'ai cru voir qu'il y avait une exposition aussi spécifique en lien avec le Festival des Trois Éléphants.
Oui, les musées de Laval ont une habitude partenariale assez dense sur le territoire. Là, l'occasion était un peu de renouveler les échanges qui existent avec l'association POC POC qui porte notamment la saison du 6 par 4 et puis qui anime le Festival des Trois Éléphants. Et bien dans ce cadre, on accueille deux choses. Une première chose, c'est une structure, une installation qui se trouve dans la cour du château, qui a été conçue par Archie Combi, qui s'appelle Fenêtre sur cour et qui d'une certaine manière fait écho à la collection d'art naïf et d'art singulier. Et la deuxième proposition, c'est une proposition avec Atsit, qui est un collectif rennais qui travaille depuis de nombreuses années maintenant sur le Festival des Trois Éléphants, mais également sur d'autres festivals, et qui propose à des musiciens de faire leur autoportrait. Pas forcément autoportrait figuratif, mais parfois des autoportraits plus abstraits qui comptent le portrait moral de ceux qui voilà, se prêtent au jeu. Et de la même manière, ces propositions font écho à la collection. Donc on retrouve leur installation à la fois dans le hall du musée, dans la première salle que l'on découvre quand on arrive au Manas, et puis également dans le parcours permanent, puisque Atsit a souhaité proposer un écho à chaque dans chacune des salles. Donc des dialogues se tissent entre cette collection d'autoportraits et puis le musée d'art naïf et d'art singulier.
Donc c'est vrai, pas mal de choses, on l'a compris en tout cas, à voir. J'imagine que c'était aussi important et une volonté pour vous en tout cas de mettre, dès la réouverture, de mettre le maximum de projets en place, parce que ça a manqué là depuis 6 mois, voire même un peu plus maintenant.
C'est vrai qu'on a du mal à imaginer l'activité du musée lorsque nos portes sont fermées au grand public. À vrai dire, beaucoup de projets ont existé sur les derniers mois, ont peut-être été moins visibles, mais les équipes de médiation sont intervenues dans les crèches, sont intervenues dans les écoles, sont intervenues dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Donc on a eu une activité sur les derniers mois, très dense, en tout cas assez rythmée, mais qui ressemble à notre organisation habituelle. Et puis on a tissé d'autres liens, d'autres partenariats. On parlait tout de suite du 6x4. Ça a été l'occasion notamment de tourner un clip dans nos salles. On a également tourné une vidéo en lien avec le conservatoire à rayonnement départemental. On a imaginé toute une série de vidéos qui sont disponibles d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. Donc ça a été l'occasion de mettre peut-être un peu plus en avant encore les partenariats qui existent d'ordinaire. Et puis a émergé également l'idée de concevoir un parcours virtuel qui permettrait de visiter le musée depuis chez nous. Donc ce parcours virtuel, il a été conçu un peu en réaction, je dois dire qu'on y pensait déjà avant, mais ça a bousculé les choses, ce premier confinement. Et donc on a travaillé sur tout ça pour pouvoir étouffer notre offre en ligne.
Le retour du grand public, ça représente aussi, j'imagine, un soulagement.
Ça représente un soulagement énorme. En fait, la fréquentation habituelle du musée à l'année, c'est 43 000 visiteurs et à peu près une proportion assez conséquente de public individuel, de public qui vient en famille sur les activités intergénérationnelles qu'on propose. Donc on a hâte en fait de le retrouver, ce public. On a envie d'avoir son retour, on a envie de sentir le musée un peu vibrer, on a envie de sentir le musée vivant. En tout cas, on a envie de voir du public dans les salles, ça c'est certain. Donc on est soulagé, et puis on est soulagé aussi de se dire qu'il y a une belle saison touristique qui se profile et que le programme qu'on a établi pour l'été pourra rencontrer le public. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien.
Sachant que les deux pics touristiques du Manas sont l'été et en décembre, lors des Lumières de Laval. Au Musée des Sciences de Laval, justement, le Zoom, on trépigne aussi à l'idée d'accueillir enfin du public. Marie-Lou Boudier-Blé y est chargée de mission.
Effectivement, c'est vraiment une super nouvelle, on n'attend que ça, d'ouvrir demain. Eh bien écoutez, on a tout prévu, on a une jauge qui correspond à une quarantaine de personnes dans l'enceinte du bâtiment. On a bien évidemment du gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs, plusieurs bornes tout au long du parcours de l'exposition pour que les visiteurs, petits et grands, puissent se désinfecter les mains très régulièrement, puisqu'effectivement, il y a quand même des manipulations, il y a des objets à toucher, etc. Donc effectivement, on est bien préparé à ce niveau-là. Et puis voilà, donc ça fonctionne pas avec un système de réservation, sauf pour les scolaires. Là, ce qu'on va faire, c'est que c'est en flux continu. Les gens vont venir, et ben si on atteint 40 personnes, effectivement, il va y avoir un petit peu d'attente, mais il n'y a pas de réservation pour le grand public à ce niveau-là.
Mais en tout cas, on pourra voir une exposition dès demain, une nouvelle exposition.
Là, on continue quand même avec Lily, qui était prête déjà depuis le 26 mars. Donc là, elle a froid, elle attend que les visiteurs viennent la réchauffer. Mais effectivement, oui, c'est pas vraiment un choix, c'est juste la continuité de la programmation du Zoom.
Et donc, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus justement sur cette exposition, Gilly Gilly ?
Oui, tout à fait. Alors, Gilly Gilly, c'est une exposition qui est conçue par une association qui s'appelle Artem, qui est basée à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Et cette exposition, elle est pour vraiment les 3-6 ans, donc vraiment le très jeune public. Mais bien évidemment, c'est pour toute la famille, donc parents, enfants, que les parents accompagnent les enfants tout au long de l'exposition. Et les deux vont apprendre des choses finalement. Et cette exposition, c'est sur le rire, Gilly Gilly, sur le rire. Pour l'objectif, c'est de comprendre d'où vient le rire, pourquoi on rit, mais aussi quels sont les déclencheurs du rire, puisque on s'aperçoit souvent que les petits, ils rigolent, mais des fois, ils comprennent pas forcément le second degré. Alors, qu'est-ce qui déclenche le rire? Pourquoi est-ce que les gens vont rire? Il existe différents types de rires, des rires forcés, des rires vrais. Et bien sûr, il y a un élément déclencheur par-dessus tout qui est un peu le fil conducteur de l'exposition, enfin, un des fils conducteurs plutôt de l'exposition, qui est l'incongruité. L'incongruité, c'est des éléments de surprise, on s'attend pas à ça, et ça va vraiment faire rire énormément les enfants, mais comme les adultes. Et donc, effectivement, c'est d'apprendre des choses plutôt scientifiques, puisque le rire, c'est quelque chose de vraiment... c'est une discipline, ça fait partie de la science, c'est quelque chose de très scientifique. Mais là, c'est vraiment de comprendre le rire, ses déclencheurs, tout en s'amusant. C'est vraiment l'essentiel dans nos expositions et dans l'exposition Guidé Guidé.
Oui, donc là aussi, j'imagine qu'il y aura pas mal d'interactivité.
Oui, tout à fait. Les différents modules, on a une vingtaine de modules dans l'exposition qui traitent donc de tous ces aspects. Et il y aura aussi bien des moments un petit peu plus actifs où les enfants sont vraiment acteurs de l'exposition. Il faudra toucher qu'il y a un système sans bien évidemment divulguer tout, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la surprise. Il y a un système de comme des boîtes à meux où on doit reconnaître le rire, reconnaître une paire de rires. Donc là, on va entendre différents rires pour aussi comprendre qu'il y a des rires. Le rire est vraiment universel à tous les hommes, mais unique à chaque être humain. Et du coup, c'est ça aussi qu'on insiste beaucoup dans l'exposition. Et donc oui, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, il y a à la fois des... Enfin, c'est très interactif. Il y a des moments où les enfants vont être acteurs et d'autres un petit peu plus receveurs, puisque ils vont entendre des histoires, ils vont un petit peu se reposer. Donc des moments actifs et des moments un petit peu plus inactifs pour ménager les enfants comme les parents.
Donc cette exposition, elle sera visible dès le mercredi 19 mai. On pourra la voir jusqu'à quand ?
Jusqu'au 3 octobre pour le moment.
Et j'ai cru voir aussi que vous organisiez d'autres animations autour de cette exposition aussi pour la faire vivre et pour aller un peu plus loin.
Dans l'exposition, il y a ce qu'on appelle des médiations grand public. Il y en a une qui s'appelle 1, 2, 3, rire. C'est le jeu de la statue revisitée où le but, c'est de ne pas rire. Est-ce qu'on arrive à se retenir de rire devant des incongruités? Et la deuxième médiation, c'est « Il était un rire ». C'est l'histoire en ombre chinoise d'un chimpanzé qui a perdu son rire. Et donc ces deux animations, elles sont proposées par les médiateurs. Alors en dehors des vacances scolaires, c'est uniquement le mercredi. Et pendant les vacances scolaires, c'est tous les jours.
J'ai cru voir aussi qu'il y avait un spectacle du yoga du rire qui était notamment proposé en juin.
Oui, alors en juin, effectivement, la programmation est un petit peu chamboulée, mais effectivement, en juin, on aura un spectacle de clowns produit par la compagnie Sarabande de Fougères. Donc ce sera le samedi 12 juin. Et puis, on aura aussi une conférence mercredi 16 juin qui s'appelle « Du fou rire au rire fou », qui retrace l'histoire d'une épidémie de fou rire qui a eu lieu en Tanzanie et qui a duré plusieurs semaines. Et donc, la conférencière revient sur cet événement-là. Et oui, ce que vous me disiez, le yoga du rire qui aura lieu le samedi 19 juin pour lâcher prise. Vraiment, on rigole pour rien. C'est vraiment le yoga du rire qui consiste à rire sans raison. Mais voilà, on se détend en riant.
Qu'est-ce que ça représente justement cette réouverture pour vous et comment vous vous êtes organisé entre guillemets en attendant ?
Et en attendant, en fait, on faisait énormément de... Enfin, on a été pas mal actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook du musée où les médiateurs, ils créaient... chaque semaine, il y avait... Là, en ce moment, c'était l'invention de la semaine. Donc, chaque semaine, il y avait une invention différente. Donc, une vidéo, il fallait faire toutes les recherches, la filmer, monter. Et ensuite, moi, je m'occupais de poster sur les réseaux sociaux. Donc, il y a tout un tas de recherches à faire pour alimenter les réseaux sociaux, puisque, au final, quand le musée est fermé, c'est vraiment ça qui permet de maintenir le lien avec les visiteurs.
J'imagine que pour vous, pour vos collègues aussi, ça fait faire du bien de voir vraiment le public en vrai.
Ah bah oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est long, un musée c'est quand même fait pour recevoir du monde et voir du monde, donc quand c'est silencieux, c'est un petit peu triste.
Pour être très complet, ajoutons que dans le département, le musée d'art et d'histoire de Château-Gontier est également accessible depuis aujourd'hui. Visite libre et gratuite du mercredi au dimanche de 14h à 18h et visite guidée sur réservation auprès de l'office de tourisme. Il vous suffit d'appeler le 02 43 70 42 74. On va passer ensuite à la chronique de Swazik, un autre écho de l'écho, mais ça ce sera juste après Slowdown de Fada Freddy.
Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, slow down. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind.
Take it on the
Slow Down de Fada Freddy dans l'agité du local, c'est ce que vous venez d'entendre évidemment. Place maintenant à la chronique de Soizic, comme tous les 15 jours, un autre écho de l'écho. Soizic qui, je ne sais pas vous, mais a profité en tout cas du couvre-feu et du confinement pour relire ses classiques de livres de sociologie. Bonjour Soizic, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho, et vous nous dites aujourd'hui que la société du risque a remplacé la société de classe.
Et oui Marie, un des rares bienfaits de ce couvre-feu est que l'on a pu redécouvrir des classiques, et c'est ce que j'ai fait en relisant « La société du risque », un bouquin d'Ulrich Beck, sociologue allemand, qui a été publié en 1986. Et je trouve qu'il est toujours étonnant de voir comme certains intellectuels ont un don de visionnaire et comprennent d'emblée la voie que prend la société. Jusqu'il y a peu, nous dit Ulrich Beck, le monde moderne développé a tout fait pour abolir les handicaps dus à la naissance et offrir à l'homme une place dans la société qui dépend principalement de son mérite et de ses choix propres. C'est ainsi que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'État-providence a permis de pallier les aléas de la vie, qu'ils soient de santé, de perte d'emploi ou de vieillesse. Or, aujourd'hui, nous dit-il, un destin d'un genre nouveau apparaît auquel aucune performance ou compétence personnelle ne permet d'échapper. On en revient quasiment au destin des hommes et des femmes du Moyen-Âge et non plus aux situations de classe sociale, sous-entendu, héritées du XIXe siècle. Le problème n'est plus les inégalités entre États, entre groupes et marginaux, entre villes et campagnes ou entre différentes appartenances sociales. Le destin n'est plus passé sous le signe de la misère, mais, nous dit Beck toujours, sous celui de la peur. Et cette peur n'est en aucun cas le résidu de superstitions ancestrales, mais le produit du monde moderne, pourtant parvenu à un stade de développement économique, social et technologique jamais atteint dans l'histoire. Aujourd'hui, ce n'est plus la situation des ouvriers qui fait la une de nos journaux. C'est la peur du nucléaire, du réchauffement climatique ou des variants du coronavirus. Au XIXe siècle, s'est construite l'opposition entre nature et culture. Cela a permis de dominer la nature et d'extraire l'homme de ses contraintes. Aujourd'hui, la nature est redevenue contrainte, poursuit Beck. La nature nous contraint dans la mesure où les ressources qu'elle produit ne sont pas infinies, dans la mesure où elle peut transformer notre cadre de vie sans que l'on puisse y faire quoi que ce soit. Je pense par exemple à la montée des eaux. Et la nature est également pourvoyeuse de virus difficilement contrôlables.
On est donc passé, Soizic, d'une société avec une logique de répartition des richesses à une société avec une logique de répartition des risques.
Eh oui, le passage de la société de place à la société du risque engendre une véritable mutation de la nature de la communauté humaine. On passe de l'idéal de l'égalité à un idéal de sécurité. Tandis que l'utopie de l'égalité est riche d'une quantité d'objectifs à contenu positif, l'utopie de la sécurité reste au contraire singulièrement négative et défensive. Il ne s'agit plus d'atteindre quelque chose de bien, mais simplement d'empêcher que ne se produise le pire. Le rêve de la société de classe est que chacun doit avoir sa part du gâteau. Celui de la société du risque est que chacun doit être épargné par ce qui est toxique. Du j'ai faim, Marie, on est passé au j'ai peur. La communauté de peur vient se substituer à la communauté de misère. La société du risque est caractéristique d'une époque sociale où se forge une solidarité dans la peur, laquelle devient une force politique. Quelle cohésion sociale sera alors générée par cette peur? Quel type de motivation et d'énergie libère-t-elle? Quelle capacité au compromis ont les hommes qui vivent dans cette peur? La peur pousse-t-elle les hommes au rationalisme, à l'extrémisme, au fanatisme? Jusqu'à aujourd'hui, on considérait que la peur n'était pas le fondement d'une action rationnelle. Cette hypothèse n'est-elle plus valable? La société du risque développe aussi la société du bouc émissaire. Ce ne sont plus les menaces qui provoquent l'inquiétude générale, mais ceux qui en signalent l'existence. Par exemple, les lanceurs d'alerte, tels que le médecin chinois qui a été le premier à percevoir la pandémie du Covid-19, ou encore les collapsologues qui nous mettent en garde contre le mythe d'une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Ils sont, ces lanceurs d'alerte, soit au pire emprisonnés, comme le médecin chinois, au mieux catégorisés comme peu sérieux, comme les collapsologues. Le problème est que les risques sont invisibles, alors que les richesses, elles, sont toujours visibles. L'augmentation des dangers génère ainsi de nouveaux défis pour la démocratie. Le risque principal, c'est celui du totalitarisme de la prévention, qui, sous couvert d'empêcher que ne se produise le pire, finit par créer, selon un mécanisme bien trop familier d'ailleurs, les conditions d'apparition de ce qui est encore pire.
Merci beaucoup Soizic pour cette nouvelle chronique, une chronique que vous pouvez réécouter, évidemment comme d'habitude, mais on le rappelle, sur notre site l'autreradio.fr. La prochaine chronique, ce sera mercredi dans 15 jours. On passe désormais à notre feuilleton avec Place au vélo qui agit depuis 1994 à Laval et ses alentours pour promouvoir l'usage du vélo, vous l'avez compris, et notamment en ville dans ses trajets quotidiens. L'association propose la vélo-école pour ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour se remettre en selle, mais compte aussi améliorer les aménagements pour les cyclistes. Toujours en compagnie du président de Place au vélo, Philippe Mautier, qui explique comment ils assurent cette mission.
En rencontrant régulièrement les élus et les techniciens et en essayant de connaître les projets, de pouvoir aussi être consulté et donner notre point de vue sur les projets, parce que c'est important de prévoir un réseau cyclable continu, donc qui est fait de différents moyens. La demande des gens, ça se vérifie avec le baromètre des villes cyclables qui aura lieu à nouveau l'automne prochain. C'est une campagne nationale par notre fédération des usagers de la bicyclette qui demandent aux citoyens de donner leur avis sur la cyclabilité de leur ville. Donc ça a été fait, c'est tous les deux ans, donc à l'automne prochain ce sera encore le cas pour localement pour les gens, ils pourront donner leur avis sur l'état effectivement du réseau cyclable. Donc c'est important parce que ça renvoie à l'attente le dernier baromètre des villes cyclables par exemple, les gens ont beaucoup insisté sur l'aménagement du centre-ville, donc ça rejoint les préoccupations de l'actuelle municipalité et de la précédente aussi sur la nécessité de transformer le centre-ville pour que ce soit plus agréable pour les piétons et les vélos, qu'il y ait moins de voitures, notamment moins de transit de voitures. Il y avait différents points qui sont en question et qui posent problème aux cyclistes. C'est notamment les intersections avec des giratoires qui ne sont pas toujours évidents à négocier pour les cyclistes, surtout les grands giratoires, donc sur les rocades par exemple. Alors, certaines rues qui étaient quand même trop circulées, peut-être pas. Voilà. Donc ça rentre dans le plan de circulation qui est en réflexion à la mairie actuellement avec la rénovation du centre-ville. Donc je pense que là, il y a vraiment un gros levier pour faire progresser l'utilisation des modes actifs. Hein. Et on attend de Laval Agglo aussi la mise en œuvre et peut-être la modification et le financement du schéma directeur d'aménagement cyclable qui a été validé et qui est peut-être à mettre en œuvre de façon accélérée maintenant. Bon, Laval était au baromètre des villes cyclables, peut-être dans sa catégorie, dans la moyenne des villes de sa taille, peut-être. On peut dire ça, mais selon les témoignages qu'on a, c'est très très variable entre le cycliste chevronné qui pédale au quotidien et qui s'intègre bien dans la circulation, ce que certains cyclistes n'osent pas faire. Et c'est important de transmettre ce message. Il faut prendre sa place dans les rues tout en respectant le code de la route. Et, le cycliste est un usager comme un autre et le vélo est un véhicule. Donc dans le respect du code de la route, il doit pouvoir prendre sa place sur la chaussée comme un autre usager.
Est-ce que c'est quand même un message qui passe mieux aujourd'hui peut-être que justement au moment de la création de l'association en 1994 par exemple ?
Oui, il y a eu des progrès de fait, bien sûr. Heureusement, il y a eu des progrès, il y a eu des nouveautés au niveau réglementaire, hein, comme les panneaux laissés passer au feu, par exemple, les doubles sens cyclables. Enfin, c'est vrai qu'en ville, on a pu aménager des choses nouvelles, les sas, ces espaces au feu que les automobilistes doivent respecter, ils ne le savent pas toujours. C'est une infraction du code de la route, donc bon, ils ne sont peut-être pas suffisamment matérialisés aussi. Donc je pense qu'il y a toujours un besoin d'informations sur les nouveautés du code de la route. Il y a des financements quand même, l'État aide les collectivités aussi à mettre en place des infrastructures utiles. Il y a effectivement une sensibilisation de tous maintenant qui montre qu'on peut revenir à une période passée où il y avait plus de vélos.
Autre tendance observable depuis quelques années, avec la pratique du vélo, se sont développés les ateliers pour apprendre à réparer sa bicyclette. L'association propose ce rendez-vous tous les mois à Laval et ça marche très bien, vous l'entendrez demain. C'est l'heure de la rubrique Initiative présentée par Claire, un programme culturel aujourd'hui Claire, et on commence avec de la musique quand on fait ses courses.
Et oui, les entrelacés invitent les consommateurs à une expérience culturelle pendant leurs courses, oui. Le principe, à l'entrée de l'Intermarché de Lassay-les-Châteaux, il faut prendre son casque où sera diffusée des histoires en continu. L'association regroupe 4 artistes, Caroline Melon, metteuse en scène, Nicolas Bonneau à l'écriture, Mathieu Delaunay pour la mise en son et Vincent Jarry qui est scénographe. Deux comédiens vous réservent des surprises, c'est Cécile Maurice et Sébastien Saint-Pietro. Ils ont besoin de bénévoles pour assurer l'accueil et la figuration. Si vous voulez y participer ou juste écouter ces histoires, rendez-vous donc à l'Intermarché de Lassay-les-Châteaux à partir de demain jusqu'au samedi 22 mai. Pour plus de renseignements, contactez le 06 34 21 98 57.
On continue Claire avec les concerts et cette fois-ci, un concert virtuel.
C'est le Virtual Band Solidaire au programme Yann Stoz, Archimède, Easy Peasy et le DJ Ibano, une scène et des artistes mayennais et même de l'humour au rendez-vous. C'est un concert solidaire car les profits iront aux épiceries solidaires étudiantes, une population particulièrement touchée par la crise sanitaire. Et si vous voulez vous y rendre, virtuellement bien sûr, c'est demain jeudi à 20h30. Vous trouverez les liens de connexion sur leur compte Facebook et Instagram en tapant Virtual Band Solidaire.
Merci beaucoup Claire. D'ailleurs, je crois que c'est assez innovant puisqu'on peut créer son propre petit personnage sur le Laval Virtual World. Et donc, évidemment, le mettre comme on veut, comme quand on pouvait réellement aller voir des concerts et ensuite, donc, voir participer à ce concert solidaire. En parlant de compte Facebook et Instagram, comme tu le disais juste avant, vous pouvez nous suivre sous l'autre radio. On n'a pas à chercher à faire très compliqué. Hein. C'est comme ça, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas nous trouver. Évidemment, là, il y a une petite surprise qui vous attend sur notre compte Instagram avec la réouverture des cinémas. On vous propose de gagner vos propres places de cinéma. 2 places sont à gagner, 3 gagnants. Donc n'hésitez pas en tout cas à participer en vous rendant justement sur notre compte Instagram et en taguant, je crois, les personnes avec lesquelles vous avez tellement eu envie d'aller au cinéma pendant ces 6 mois. Et là, ça y est, vous n'attendez plus. Eh bien, n'hésitez pas donc à participer. Vous avez compris comment ça fonctionne. Dernière petite information, si vous voulez nous partager vos propres initiatives, le répondeur est toujours là. Vous pouvez appeler le 09 70 40 59 40. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local. Merci beaucoup Claire et on se retrouve demain.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde. Et n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. Moi, j'ai envie d'aller au cinéma avec vous. Donc allez, c'est parti.
Alors non, on ne triche pas, Claire. Ce n'est pas pour nous les places. Interdit. Alors vous pouvez taguer tout le monde, sauf nous, évidemment.
Dommage. Bon, on se retrouve demain, c'est ça hein.
Évidemment, demain à 12h15. Mais avant, à l'antenne, bien sûr, vos émissions continuent. À 21h, il y aura Chaosphère spécial trash ce soir. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.